C'est chiant, hein? Bon, ben, je vous le refais un petit peu. C'est pénible, hein?
Oui, bonjour, monsieur Mermet. Bon, juste un petit coup de téléphone pour vous dire ou de vous donner mon opinion au sujet des atrocités commises par les soldats américains et anglais. Moi, je me souviens, en 1956, étant en Algérie, avoir été témoin occulte d'une scène qui rend méprisables tous les militaires de carrière. J'étais en convoi avec un groupe de transport sur une piste du côté de Tébessa. Et il y avec des GMC, un convoi de GMC, hein. Et le chef du convoi, c'était une espèce de sergent-chef, mais je crois même que c'était un sergent-major qui avait été, il se vantait d'avoir été un des premiers engagés en Corée. Eh bien, cette espèce d'abruti, là, moi, j'étais dans le GMC, j'ai vu ça, j'ai entendu cette connerie immense de sous-off minable. À 100 mètres devant nous, sur la piste, il y avait ce qu'on appelle une araba. Une araba, c'est un petit tombereau tiré par une mule ou un âne, je ne sais plus. Et il y avait le propriétaire qui était assis sur le timon, sur le côté, puis cloc, 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 ça avançait tout doucement, bah oui. Et l'espèce d'abruti, là, donne l'ordre au chauffeur, il dit, vas-y, accélère à fond, on le fout en l'air. Ah, ben, sitôt dit, sitôt fait, l'autre, qui était un appelé du contingent, le chauffeur, hein, a accéléré à fond sur son GMC, et puis, badaboum, on a envoyé, enfin, oui, le GMC a envoyé la rabat, le pauvre bédouin, et sa charrette, son âne, tout ça, ça a voltigé en l'air.
Des messages comme ça, on en a reçu plusieurs sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Des rapprochements, comment ne pas faire de rapprochements avec les images qui nous parviennent d'Irak, de Bagdad et d'ailleurs. Et puis, ce qui s'est passé en Algérie pendant la guerre sans nom, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. La torture, il en a été grandement question ces dernières années en France, un long et douloureux débat, souvenez-vous, c'est au tournant de l'an 2000. Et dans la base, j'y suis, en 98, avec Guy Vanctil, on vous avait présenté une série de témoignages d'anciens d'Algérie. On va revenir aujourd'hui sur deux de ces témoignages qui ont trait avec la torture, dont l'un est sans doute un des premiers témoignages qui dit carrément et ouvertement les choses. Et un autre, où cet ancien combattant finit par dire ce qu'il a fait en Algérie. Pourquoi revenir là-dessus? Bien parce qu'il y a une analogie. Les petits bidas, les petits djihadistes qu'on avait vus à Marseille partir pour l'Irak. Souvenez-vous, c'était en février de 2003. C'était l'an passé. C'était hier. Ont emprunté le même chemin, la même ville, les mêmes rues. Ils ont vu la même canebière que ceux qui à la fin des années 50, partaient pour l'Algérie, aussi jeunes, aussi écervelés, aussi gais, aussi vivants. Et ils sont revenus quelques dizaines de mois plus tard, dans un état terrifiant le plus souvent. Mais le pire, c'est la mémoire. La mémoire qui ne vous lâche pas, qui ne vous lâche plus. Tout comme aux États-Unis, les vétérans, les anciens du Vietnam sont toujours hantés par ce qu'ils ont vu et par ce qu'ils ont fait. Tout comme les nôtres ici sont hantés par ce qu'ils ont vu et par ce qu'ils ont fait, eh bien les jeunes djihadistes qui sont actuellement en Irak reviendront lourds, très très lourds, de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont fait. C'est donc au miroir de cette mémoire que nous partons aujourd'hui dans la base, si j'y suis.
Oui, bonjour. Eh bien, mon appel fait suite à celui d'une auditrice d'hier qui se disait épouse d'artisan. Et c'est vrai que personne ne parle jamais de nous. Moi aussi, je suis artisan d'art. J'ai connu des difficultés cet hiver et je me suis renseigné pour avoir des aides. Pas droit au chômage, pas droit au RMI, Nous sommes tous un peu des marginaux, il ne nous reste que les yeux pour pleurer. Mais en fait, la plus grande récompense vient d'une seule chose, c'est l'amitié. Et l'amitié, dans ce petit village du Lot-et-Garonne où je suis installé, à Villeréal, on l'a trouvé. On est une bande d'amateurs de musique, de jazz, blues, rock, et grâce à un seul homme qui a bien voulu se porter caution, qui est notre petit épicier préféré, qui s'appelle Christian, en 3 mois, nous avons mis à jour une association qui a bien vu naître. Et les groupes musicaux, le service d'or, les buvettes, le gardiennage, tout est prêt. Nous sommes tous des bénévoles. Voilà, donc par cet appel, je voudrais lui rendre hommage. Et le plus bel hommage sera que tout le monde vienne nombreux à ce festival que nous organisons le 15 mai sur l'hippodrome de Rive, Villeréal, où il y aura Meron, Mr. Chang, Ezzy Monet, Ricky Morton. Voilà, cet appel aussi est parce que je sais que Daniel Mermet est très attaché à ce qu'est l'amitié, puisqu'une des plus belles émissions que j'ai écoutées, c'est lorsqu'il a perdu son meilleur ami et qu'il lui avait rendu un grand hommage. Merci beaucoup à tous de nous rendre hommage et venez nombreux sur l'hippodrome de Rive le 15 mai à Villeréal à partir de 18h. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base si j'y suis. Ils eurent 20 ans à Bagdad.
Flight number 2. Arriving from New York.
Okay, get ready.
My name is Kenny.
Chris.
Sherman.
Michael.
Gary.
Nate.
Jessica. Candy.
Christina. Mindy.
Kimberly. Ricardo.
Okay. From NBC News, this is a special edition of Today. America Strikes Back.
Okay, get ready.
Iraq should be ready.
L'Irak devrait être prêt.
Iraq should be ready.
L'Irak
ready for
s'en...
us. Right
prêt
here.
Pour nous.
We're coming.
On arrive.
We're coming. We're going to see you soon.
On va vous voir bientôt.
Iraq should be ready.
C'était le 9 janvier 2003 à Marseille. Guy Vanty était avec le micro et ces jeunes bidas étaient prêts à embarquer, réembarquer sur le USS Truman, immense navire qui partait pour l'Irak et qui avait mouillé pour quelques jours, quelques heures à Marseille. Et il y avait des petites manifestations tout à fait faméliques contre la guerre à Marseille. Et Kenny, Chris, Shermy, Michael, Kerry, Neil, Jessica, Candy, Christina, Mandy, Kimberly et Ricardo. Eh ben, il y a quoi? Il y a 50 ans? Il y a 50 ans. Eh ben, il s'appelait Maurice. Il s'appelait René. Il s'appelait Robert. Il s'appelait Alain. Il s'appelait Michel. C'était, ils avaient le même âge. Et ils prenaient le bateau, non pas pour l'Irak, mais pour l'Algérie. C'est frappant de penser que les uns ont marché dans les pas des autres et qu'ils sont allés joyeux pour des courses lointaines, découvrant des pays et des peuples dont ils ne connaissaient absolument rien, sinon qu'il s'agissait de barbares égorgeurs, comme les médias leur avaient dit aux uns et aux autres, et comment mais ce sont les uns et les autres trouvés dans des guerres auxquelles ils ne comprenaient pas grand-chose, et ils ont été conduits, les uns et les autres, à faire, certains, pas tous, attention, pas tous, des choses terrifiantes, avec une facilité terrifiante. C'est à la mémoire de ceux qui, ces dernières années, ont été secoués et ont secoué notre pays avec la question de la torture et en pensant à ces jeunes dont nous entendons la voix et qui sont des futurs vétérans et qui dans 20 ans, 30 ans auront les mots terribles, les mots de la hantise, pour dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants, ce que les vétérans du Vietnam essayent de dire aujourd'hui, comme nous les avions vus à Saïgon, comme nous les avions vus dans les champs de mort du Vietnam, c'est en pensant à ces hommes et aujourd'hui à ces femmes. C'est ça qu'il y a de nouveau. S'il y a une nouveauté, c'est à ces femmes. Et puis, l'autre chose nouvelle, s'il y a une chose nouvelle, c'est les images. Même si nous en avions eu, nous en avions au temps de l'Algérie, mais ce qui restera de notre époque probablement, c'est cette image de cet homme portant cagoule, bras en croix, les mains reliées à des fils électriques, les mêmes fils électriques de la Gégène du passé. Et cet homme est juché sur une boîte de rations alimentaires. S'il tombe, il sera exécuté. Nous vivons dans ce monde-là.
Bouche, la terre n'est pas à toi, le pétrole n'est pas à toi, liberté pour les peuples. Bouche, la terre n'est pas à toi, nous ne voulons pas de ta gaine. Bouche, la terre n'est pas à toi, non à ta gaine.
From NBC News, this is a special edition of Today. America Strikes Back.
Les soldats d'Algérie vous parlent.
1954-1962, ils ont eu 20 ans dans les Aurès. Aujourd'hui, au fond de la France, 2 millions de mémoires enfouies.
Il y avait d'autres tortures que la Gégène ?
Oh ben oui, des fois on leur mettait un tuyau dans la bouche avec un entonnoir et puis on leur versait de l'eau. Pour les faire avouer.
Ça fait chier, ça. Je ne dois pas vous le dire.
C'est ça qui empêche de dormir maintenant.
Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ouais.
La Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. L'Algérie, c'est la France. Pour ces mots-là, 2 millions sont partis. 2 millions de petits soldats de 1954 à 1962 appelés pour une mission de pacification. Au bout de 24 ou 30 mois, ils revenaient. Pas tous. La France a dû leur fabriquer 27 500 cercueils. Sans parler des milliers d'esquintés, du corps ou de l'âme, les autres sont revenus avec leur paquet d'incompréhension, de douleur, de honte, un pactage de mémoire moche. Le silence, surtout. C'est depuis 40 ans le lourd secret de la famille France. Aujourd'hui, ils portent toujours les stigmates de la défaite et de la culpabilité collective. Oublié de l'histoire, mal aimé souvent, ignoré surtout, une mémoire de non-dit et de mal-dit.
Bonsoir, Henri Bonal à Saint-Igeste dans l'Aveyron. En 1958, j'étais dans les Nebenscher. J'avais 20 ans, je n'étais pas appelé, mais engagé volontaire. Et je fus volontaire pour l'Algérie, car je ne voulais pas rester au calme, en métropole, pendant que les appelés souffraient là-bas. Et là-bas, j'ai vu pendant 2 ans quel était notre niveau de barbarie. J'ai vu et entendu crier tous ceux que l'on torturait au nom de la pacification. J'ai vu utiliser le napalm pour brûler les rebelles qui se cachaient dans les plantations de figuiers de barbarie. J'ai guidé avec mon camion radio les avions T6 qui bombardaient les Mechta, pleines de femmes, d'enfants et de vieux. J'ai vu aussi un rebelle me refuser un jus de fruits après une séance de torture sur le piton où je me trouvais, parce qu'en plein ramadan, le soleil n'était pas encore couché. Quel courage! J'ai vu des camarades massacrés par des rebelles, car les supérieurs les avaient envoyés sur la piste sans protection. J'ai vu que nous étions fous, nous, les défenseurs des droits de l'homme. Et je suis devenu antimilitariste, moi, fils de militaire. Et j'ai manifesté à Charonne, et j'ai été assommé par les gardes mobiles. Et j'ai honte pour la France. Merci, Daniel Mermet.
Ok, get ready.
Iraq should be ready.
L'Irak devrait être prêt.
Iraq should be ready.
On pourrait traduire ce message, le message de cet auditeur en anglais. Il est déjà traduit en anglais. Sans doute que sur une radio, quelque part, aux États-Unis, un ancien du Vietnam a dit la même chose. Peut-être qu'en Russie, un Afghaniette, un ancien d'Afghanistan, a dit des choses analogues. Et dans 10 ans, dans 20 ans, eh ben les gamins, les jeunes qui sont actuellement en Irak, les garçons comme les filles diront la même chose. parleront-ils comme celui que nous allons entendre? C'était en 1998, grâce aux travaux d'une historienne, Claire Moscopo. Nous avions pu rencontrer des anciens d'Algérie qu'elle avait elle-même rencontrés, qui s'étaient confiés à elle et qui se sont confiés à nous, comme Monsieur Dieudonné. Voilà Raymond Dieudonné. Alors lui, c'est le paysan, vraiment le paysan, comme dans les livres d'autrefois, dans une grosse maison vosgienne, cette superbe maison des Vosges. Et on est pris par une émotion en entrant là, c'est qu'il y a encore des vaches dans cette dans sa maison, et que ça sent les odeurs, j'allais dire les parfums, les odeurs de notre enfance. Raymond s'assoit au bout de la table, toile cirée, et à portée de main, comme pour chacun de ceux qui a bien voulu nous recevoir, il y a l'album de photos, des photos de cette mémoire-là. Vous êtes parti quand ?
Je suis parti soldat le 15 décembre 1955.
Est-ce que vous aviez voyagé avant? Est-ce que vous aviez...
Non. Non, c'est l'armée qui m'a ouvert la route, quoi. De la garde ici, je me suis rendu à Verdun.
Ouais. Pour faire vos classes.
Pour faire mes classes. Puis après, j'ai embarqué au mois de mai pour l'Algérie. C'était chaud. On ne voulait pas y aller, hein.
Ah oui?
Il y avait la police qui nous obligeait à monter dans les wagons. Hein.
Marseille, le bateau.
Marseille, le bateau. Beaune. 39 heures de bateau. Ce que je me rappelle, c'est qu'ils nous ont passé un film, c'était le film de Fernandel, le retour de son fils d'Algérie, puis nous, on y partait. Ils auraient bien pu nous mettre un autre film, hein. Moi, je me suis retrouvé à Wenza. Comme voltigeur de pointe.
C'est quoi, voltigeur de pointe?
Ben, c'est le premier à la barbac.
C'est le?
Ben, c'est le premier à aller à l'ennemi, hein. En haut, j'en ai tué, ça a été quand j'étais tireur sur une quadruplée.
Quadruplée, c'est quoi?
Une mitrailleuse antiaérienne. C'était 4 mitrailleuses. Alors là, j'en ai tué. Et tué 4. Et si la quadruplée est là, si les moteurs électriques n'avaient pas grillé, j'en aurais sûrement tué un peu plus des autres.
À quoi on pense quand on tue des hommes?
Rien. De toute façon, on était content quand on a tué, hein. On était là-bas, c'était pour ça. Hein.
Mais quand même, c'est un homme qu'on tue, c'est pas un sanglier.
Ah ben oui, c'est un homme. Oui, mais à force de faire, on est vacciné. Hein.
Est-ce que vous arriviez à parler avec vos adversaires, avec vos ennemis, avec les félagas?
Non. C'est où? C'est quand on leur parlait, c'est quand ceux qu'on avait fait prisonniers, qu'on les interrogeait pour savoir quelque chose. Mais autrement, non.
Vous avez assisté à ces interrogatoires?
Ah ben oui, on faisait partie du deuxième bureau, là. Bon, pour les interroger, soit on les passait à la GGN, hein, la génératrice électrique. On leur branchait les fils sur les parties.
Sur les couilles?
Sur les couilles, oui. Ou bien, puis on les remettait encore les pieds dans l'eau, avec la génératrice.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars? Ils se mettaient à hurler.
Ah ben, ils hurlaient, oui. Ils nous disaient, chef Makan Chfellak, monsieur, je suis pas fait de la gare. Bon ben, s'il avouait pas aujourd'hui, on le remettait dans sa cellule, et puis on le reprenait le lendemain, puis on recommençait. Ben, au bout d'une paire de jours, s'il avait pas avoué, ben, on lui faisait la peau.
Comment ça?
On le tuait.
Vous en avez passé combien à la GIGN?
Oh, alors là, je vais pas vous dire. Hein. On a passé une paire. Hein. Bien une centaine. Hein.
Est-ce que vous vous souvenez, ouais, parce que moi j'ai quand même du mal à réaliser. J'ai du mal à réaliser, ben moi je me vois pas en train de torturer un bonhomme. Alors, la première fois que vous avez fait ça, est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que vous avez fait ça?
Ben, je l'ai fait avec plaisir. De lui mettre les deux fils sur les couilles, comme on peut dire, et puis de tourner la manivelle. Hein.
Et plus ou moins vite, ça fait plus ou moins mal.
Ah ben oui, ça fait plus on tourne vite, plus il se fait de courant. Hein.
Ça fait des gars qui, de toute façon, sortaient de là impuissants, ils pouvaient plus...
Ah ben oui.
Et il y avait d'autres tortures que la GIGN?
Oh ben oui, des fois on leur mettait un tuyau dans la bouche avec un entonnoir, et puis on leur versait de l'eau. Pour les faire avouer. Hein, tous les litres d'eau de la jerrican, ils n'étaient pas absorbés, ils en coulaient de chaque côté, mais c'est bon, ils en absorbaient au moins une dizaine de litres. Hein. On n'était pas fainéants pour verser. Hein.
Ah, ça fait souffrir, ça.
Ah ben oui. Mais c'est pas pour ça qu'ils avouaient. Hein.
Et c'est pas pour ça que vous arrêtiez.
Et c'est pas pour ça qu'on arrêtait non plus. Hein, pour arriver à un résultat, mais on n'y a jamais arrivé à un résultat.
Ah, jamais?
Jamais.
Des centaines que vous avez torturées, il n'y en a pas un qui a parlé?
Oh, non, non. Oh, c'est Mulet. Hein.
Hein?
C'est Mulet, un Algérien.
C'est Mulet?
Mulet, oui.
Il y avait qui avec vous?
Il y avait le Pitain.
Le capitaine?
Le capitaine, un lieutenant.
Lieutenant.
Et puis, deux, trois appelés.
On demandait des volontaires.
Ouais.
Et pourquoi vous étiez volontaire, vous?
Ben pour les faire souffrir.
Ah.
C'était notre plaisir. Comme ça, on se vengeait.
Jusqu'où ça a pu aller, ces tortures, ce plaisir?
Jusqu'à la mort.
Ça a duré combien de temps avant de les tuer?
Oh, des fois 4-5 jours.
4-5 jours de torture.
Ah, oui. Et avant de les tuer, on leur faisait faire leur trou. Et quand le trou était fait, s'ils ne voulaient pas avouer, eh ben on le tuait. Et puis on faisait reboucher le trou par un copain qui était prisonnier aussi.
Combien vous en avez exécuté comme ça?
Oh, une vingtaine.
Ah ouais. Est-ce que par la suite, parce que ça c'est des choses qui remontent à plus de 40 ans, est-ce que par la suite c'est quelque chose que vous avez regretté un jour de dire on est peut-être allé trop loin quand même?
Ah non.
Hein?
Ah non. Vu à l'heure actuelle, tout ce que j'ai fait là-bas, je ne le regrette pas. Moi je suis raciste, hein, je ne peux plus les voir. Mais quand j'entends dire, ou bien qu'ils marquent sur le journal ou à la télé, qu'il y en a qu'autant des tués, ben c'est temps qu'ils seront quittés de venir en France. Hein.
C'est d'autant
qu'ils seront quittes de revenir en France, ceux qui sont tués.
Et ceux qui sont en France, il y en a qui vivent en France quand même.
Ben oui, on n'a qu'à les renvoyer chez eux. Ouais. Ça fera du boulot pour les Français.
Ah vous, je suis sûr que vous votez pour le FN. Hein.
Ah non.
Ah bon?
Ah non, non, non. Non, j'irai quand même pas jusque-là. Hein.
Vous êtes raciste, mais vous votez... Enfin, ça me regarde pas, mais vous votez comment?
RPR.
Vous votez au RPR.
Oui.
L'Algérie est et restera indissolublement liée à la France métropolitaine.
Pas se tromper. Et pas se tromper en écoutant la voix de cet homme. Tous ceux qui sont allés là-bas ne partagent pas nécessairement ce genre de sensibilité, ni cette expérience, bien évidemment. Je veux dire par là que si vous avez un papa ou un grand-père et qui est allé, qui est un ancien combattant d'Algérie, il n'a pas nécessairement participé ou lui-même torturé. N'allez pas croire ça. Il faut faire la part des choses et continuer jusqu'au bout d'écouter Raymond Dieudonné.
Oh, l'album des photos.
Oh là là, il est soigné votre album, hein.
Oui, là c'est le départ. Là c'est l'arrivée à Beaune.
Beaune. Alors ça c'est tous vos copains. Où est-ce que vous êtes, vous, là-dedans?
Là me voilà. Là me voilà.
Ah, et... Vous voilà en noir et blanc, là, avec votre calot. Quand même, quand on voit la photo d'un petit gars comme ça, on se dit... Pensez aujourd'hui qu'un petit gars comme ça venait torturer quelqu'un et allait torturer quelqu'un, hein?
Ah oui.
C'est fou, hein, quand même, hein?
Ah oui.
Ah, vous aviez apprivoisé une hyène?
Non, elle a été électrocutée dans le réseau barbelé.
Oh.
Dans le réseau électrifié.
Qu'est-ce que c'est deux jeunes filles?
Oui, c'est deux jeunes filles.
Elles sont jolies.
Ah, pas de l'armée, il n'y en a plus maintenant, c'est tout du civil.
L'histoire s'arrête là?
Oui.
Finalement, votre histoire algérienne, ça se finit avec cette photo de deux jeunes filles algériennes, hein? Moi, ce qui m'étonne là-dedans, quand même, très franchement, hein, Raymond, c'est que personne ne vous ait jamais dit que c'était dégueulasse. Ça, j'arrive pas à croire ça. J'arrive pas à croire que...
Ah, pour nous, là-bas, non?
Là-bas, personne ne vous a dit que c'était dégueulasse. Mais depuis que vous êtes rentré ici, vous avez raconté cette histoire, il n'y a jamais un gars qui vous a dit, bon, écoute, t'as fait des trucs...
Ah, ici? Ah, ben si. Ah, ben si, il y en a eu qui me l'ont dit, hein.
Ah, qu'est-ce que vous leur répondez?
Ben, parce que c'était normal. En parlant franchement, le français, il est aussi barbare que le Bosch, hein.
Le français est aussi barbare que le Bosch.
Que le Bosch, hein.
Ouais. C'est-à-dire que, Raymond, il y a un moment où vous considérez quand même que vous vous êtes conduit là-bas comme les Bosch se sont conduits.
Ah, oui, oui, oui. Oui, oui.
Ouais. Mais c'est moche, ça.
Ben, oui.
Ça pèse sur la conscience d'un homme?
Oui et non. Maintenant, c'est du passé, hein.
Eh bien, la conscience, elle n'a pas de passé, elle continue.
Ah ben, elle continue, oui.
À quel moment ça pèse sur la conscience?
Je sais pas.
Alors, on referme l'album, les photos. La mémoire d'un ancien d'Algérie et des mots qu'on entendra sans doute quelque part dans quelques mois, dans quelques années, dans un coin paumé du Kentucky ou du Colorado. Il y aura un papy comme ça qui montrera, alors ce sera pas des photos noir et blanc, ce sera d'autres images, mais au fond, il y a une analogie et des histoires qui se reproduisent de façon, il faut bien le dire, tout à fait désespérante. Une autre rencontre à cette époque, c'était en 1998, je vous le rappelle, dans cette même région de France, un autre ancien qui lui racontait les choses d'une façon totalement différente.
Je suis parti au mois de mai 57.
Mai 57.
Je me suis retrouvé dans les parachutistes à Pau.
Et pourquoi vous avez... C'est vous qui aviez choisi para?
Ah non, j'avais pas demandé para, non.
C'est vrai, ça, je crois qu'à l'époque, il fallait demander pour aller à Pau.
Oui, il fallait demander, mais moi, j'ai pas demandé, on m'y a mis de force. Et quand je suis arrivé à Pau, on m'a demandé si j'avais demandé les paras, j'ai répondu non. J'ai demandé l'infanterie. Ici, c'est pareil qu'ils m'ont dit. C'est l'infanterie à réemporter.
Ouais.
Et puis, voilà, je me suis retrouvé chez les paras. Puis voilà, et puis je me suis donc retrouvé en Algérie.
Est-ce que vous aviez une idée de ce qui se passait là-bas à l'époque? Vous aviez 20 ans?
Je ne pensais pas que c'était ça, non. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'étais pendant un mois, c'était pas marrant. J'ai pleuré quand j'ai vu ce qui se passait. Parce qu'il se passait des sales choses là-bas. Puis personne ne savait en France. Hein. C'était la vie, hein, c'était... Alors au bout d'un mois, ben on s'y fait, hein. Et puis on suit.
Les sales choses en question, c'était quoi? En arrivant, vous avez trouvé qu'il y avait...
Ben, je sais pas, des gens en opération, et puis on voyait des morts, des copains qui se faisaient tuer, blessés, et puis ainsi de suite, et puis... Puis les villages qui se faisaient brûler, les gens qui se faisaient tuer, quoi.
La première fois que vous avez vu un copain mort, vous vous souvenez de cette...
Oh, je crois que j'ai pleuré la première fois. Quand j'ai vu qu'il était allongé, comme ça. Ouais. On a eu des drôles d'accrochages à mon régiment, là. Mmh. Jusque 22 morts d'une opération. Hein. Et oui. Deux copains qui ont été égorgés, là. Ouais. De là qu'on me fait pleurer.
Jovial, vraiment un grand-père rond, pas très grand. Il est tout au bout d'une table, il y a Irène, sa femme, qui est en face et qui écoute. Longue table, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il a beaucoup d'enfants, 5 ou 6, je sais plus très bien, et que je ne sais combien de petits-enfants, et derrière petits-enfants, à l'automne de sa vie, Bernard, et c'est un homme heureux, ça va bien, une grande maison, un jardin, il s'occupe de son jardin, il a une serre, et par derrière, là-bas, il est très fier de sa maison. Et dans un coin, il y a alors des brevets, des médailles, des souvenirs de sa guerre. Il était dans les paras.
En opération, une fois, j'ai dit au lieutenant, il faudrait bien envoyer un tir de mortier dans le trou, là. Et je lui dis, je suis sûr qu'ils sont là, les falles. Mais non, Bernard, mais non, il me dit l'autre, pas ça. Et là, j'ai vu mon copain mourir, là. Il était radio comme moi. Il a pris une balle là, il est sorti de l'autre côté. Et la veille, il m'avait dit, on va boire un coup, c'est peut-être bien la dernière fois qu'il m'avait dit. Il est mort. Il est tué, là, oui.
Pour mon compte personnel, ça n'a pas de sens.
La mort, il y a la mort tout le temps. La sienne, celle des autres, il y a la mort tout le temps. Tu dors avec, tu travailles avec. C'est insoutenable. C'est insoutenable.
Tout ça, ça ne compte plus.
Je pense que... Non, c'était pas la France de la liberté, là. Non, je crois qu'on était... On n'était pas à notre place. Il aurait fallu traiter le problème différemment, quoi. C'était pas très beau, ce que l'on a fait. Comme on a terminé la présence française là-bas, quoi.
C'est pas plus bête que ceux de maintenant, mais moi ça m'a traîné toute ma vie, ça. Pour ça, il y en a des fois qui disent que ceux qui ont été là-bas sont un peu tarés, mais il y a une bien de part de vérité, hein. On n'était pas plus bête que ceux de maintenant, mais il y a une part de vérité, hein.
C'était pas très beau ce que l'on a fait.
Il y a des moments où on a une espèce de conviction intérieure que sa vie propre, à commencer par sa vie propre, celle de ses voisins immédiats, celle des gens d'en face et des inconnus, ça, tout ça, ça ne compte plus. Ça n'a plus aucune valeur, aucun poids, aucune consistance.
La sienne, celle des autres. Il y a la mort tout le temps.
Il y a des trucs qui se sont passés que moi, je ne raconterai jamais. Je garde ça pour moi. Et puis, je ne dois pas être tout seul si vous en avez été un... interviewé d'autres, je pense qu'ils ont eu le même réflexe que moi. Parce que, pour mon compte personnel, ça n'a pas de sens. C'est plus de la guerre, c'est plus de pacification, c'est plus... C'est honteux.
Et la veille, il m'avait dit, on va boire un coup, c'est peut-être bien la dernière fois qu'il m'avait dit.
Ma guerre, moi, c'était plus contre l'armée française que je l'ai faite, que contre le FLN.
Ils sont pauvres là-bas, les pauvres gens. Le long de la côte, c'est beau, mais dans le bled, c'est pas vivable, les pauvres gens.
Donc vous les compreniez, vous compreniez?
Ben, bien sûr qu'on les comprenait. On aurait resté avec eux, c'était des copains, hein. On faisait pas que la guerre, hein. On faisait la pacification, nous, hein. On le maintien de l'ordre, quoi. On était mal vus, les parachutistes, là-bas. Vous voyez, après les murs, parachutistes égale SS. Les buveurs de sang, les assassins des orées, ce qu'on nous appelait.
C'était vrai?
Mais c'était vrai, parce qu'on allait faire la guerre, quoi. Et il fallait, quand on en trouvait des gens en face de nous, il fallait, c'était eux ou nous, hein. Non? Ben oui, ben c'était ça, hein.
Mais est-ce que vous pensez vraiment, vous, que vous êtes comporté parfois comme des SS?
Non, quand même pas. On n'était pas des êtres sauvages comme ça, quand même. Je pense pas, hein. Je pense pas, hein. J'ai gardé des prisonniers, j'ai vu, c'était pas beau, mais enfin, je pense pas qu'on les matraquerait comme ça, quand même. Il y a certainement eu des tortures, mais...
Moi, vous avez assisté?
Moi, t'as appelé, jamais vu. J'ai gardé des prisonniers, oui. J'en ai gardé, oui. Mais autrement, non. Les tortures, j'en ai pas vu.
Mais ça, c'était pas de votre ressort, la
ben
torture?
Non, nous, non, 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 non. Fallait crapahuter, il fallait chercher les fels dans la montagne, quoi, c'est tout. Oui. Et voilà.
Mais est-ce que vous pensiez que, effectivement, l'Algérie, c'était la France et qu'il fallait défendre la France en Algérie?
Ben oui, pour moi, oui, parce que c'était un beau pays, c'était agréable, c'était joli, c'était quand même une colonie qui appartenait à la France, non? Oui.
Vous étiez partisan de l'Algérie française?
Ben bien sûr, il fallait la garder, l'Algérie française. Ils auraient été bien, bon, ils ont voulu leur indépendance. Bon, ben, tant pis, hein, hein.
Mais je vous comprends pas, parce que vous dites que vous compreniez ces gars, vous compreniez vos adversaires, vos ennemis, parce que
ben
c'est des ennemis.
Ben oui.
Vous compreniez qu'ils se battent
pour défendre
leur terre,
leur patrimoine, oui, leur terre, patrimoine, oui.
D'une part, vous comprenez ça,
oui.
Et d'autre part, vous étiez quand même pour l'Algérie française.
Ben oui, bien sûr, parce que, je sais pas, moi, c'était... Fallait pas les laisser tomber, quand même, les gens, là, parce que... Je sais pas, moi, c'était... Fallait les aider, parce qu'ils étaient pas malins. Ils arriveront jamais à se contrôler, à faire ce qu'ils veulent. Il fallait les instruire, ces gens-là, parce que... Dans la montagne, ils étaient... C'était des sauvages, pour moi.
Des
ils comprenaient rien du tout, ils comprenaient rien. Hein.
C'est vous qui ne compreniez rien, peut-être?
Peut-être, je sais pas.
Vous dites que c'est vous qui compreniez rien à leur culture, oui. À leur façon d'être et
non.
De vivre?
Ben oui. Ce que... On a fait des expériences, nous, quand on était en opération, on s'est envoyé l'arabe sur sa bourrique.
L'arabe sur sa bourrique?
Oui. La hache sur ses genoux, et puis la bonne femme avec le fardeau de bois sur le dos. Alors nous, on disait, c'est pas normal. Hein. Alors on attrapait l'arabe, on le mettait en bas de la bourrique, on mettait la femme sur la bourrique et puis on lui mettait le fardeau à l'homme, quoi. Alors notre sergent disait, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. Faites 10 mètres plus loin et il mettait à bas son fardeau et il remontait sur la bourrique. Eh oui, c'était comme ça, il aurait fallu les instruire plus, enfin je pense.
Chers parents, je vais très bien et j'espère que pour vous il en est de même, que le retour de vacances s'est bien passé. Et je vous embrasse tous bien affectueusement.
Les appelés, on ne voyait pas tout ce qui se passait. Il y avait des choses, on ne devait pas le voir ni le faire. Vous comprenez? Ils nous faisaient voir des choses quand même, mais pas tout. On n'a pas tout vu.
Par exemple?
Ben, les tortures qu'il y a eu, j'en sais rien, moi. Je sais pas. Hein. On n'a pas vu ceux-là. Hein?
On vous tenait à l'écart. Les paras étaient tenus à l'écart. Les paras appelés étaient tenus à l'écart.
Oui, appelés, oui. Les paras appelés, oui. Oui, oui.
Mais les engagés?
Ben, c'est certainement mieux que nous, hein. Ils ont vu plus de choses que nous. Ils en ont fait certainement plus. Hein? On a entendu parler des corvées de bois.
Oui.
Non. Vous savez ce que c'est? Les corvées de bois, c'est quand on accrochait puis qu'on faisait des prisonniers. Et les prisonniers-là, ils devaient plus vivre. On leur disait, vous êtes libres, vous allez chercher du bois. Et là, ils les attendaient avec les fusils et les FM. Ils allaient pas plus loin. Voilà ce que c'est.
Vous avez fait ça,
pour ça? Non, j'ai pas fait. Non. Il y avait trop de volontaires pour y aller.
Moi, ça... Trop de volontaires?
Oui.
Comment vous trouvez ces volontaires, les gars qui étaient volontaires, comment vous les jugez aujourd'hui? La solidarité est plus grande, hein, que le jugement. Hein? Vous préférez être solidaire que juger,
oui.
C'est ça?
Oui, oui. Parce qu'il demandait des volontaires, il y en avait toujours de trop. J'ai jamais été volontaire pour faire ça, non. Non, non, j'avais vu la guerre de 45, la 44, on avait 7 ans, mais on a vu ça, alors on était un peu plus réfléchi, je pense. Oui. Oui. J'ai vu un SS mettre le temps à mon père sur la tempe, hein. J'avais 7 ans, ça m'est revenu là-bas. Hein. Ça m'a travaillé, ça. Hein. J'ai dit non, Bernard, pas ça. C'est tout, hein.
Vous avez vu ça? Et vous avez failli refaire la même chose?
Presque, oui. J'ai revu ça, ça m'a fait quelque chose dans la tête.
Mais il y a des copains qui l'ont fait. Vous avez vu des copains le faire?
Oui, c'est sûr, il y en a qui l'ont fait. Oui.
Donc vous avez encore, à cause de cette image-là, vous aviez un peu de conscience.
Oui, oui.
Exactement. Quelque chose vous a arrêté.
Oui, voilà, exactement, oui. Ouais. Et puis quand j'ai rentré en Algérie, j'étais un méchant, en plus. On est devenu méchant.
Eh ouais. Si on vous voit, on ne voit pas comme un méchant. Vous êtes un petit bonhomme tout rond,
ouais, ouais,
hein, avec une grande tablée qui attend les enfants avec un arbre de Noël derrière.
J'étais méchant. Hein.
C'est-à-dire?
Ben, s'il y en a un qui m'embêtait, je rentrais dedans. Hein. J'en ai bavé, hein. J'en ai bavé, pour me mettre à la normale. Oui. Ouais. J'en ai bavé, oui. Ça a été dur, hein. Ouais. Et après, bon, je me réveillais la nuit, j'étais à genoux dessus pour à la boxer. Hein.
La patronne?
Oui.
Mais alors?
Deux fois. Hein. Réveillé en temps, deux fois.
Et pourquoi non?
Ben, c'était les Eiffels. J'étais avec la Algérie après les Eiffels, là-bas. C'est pas des conneries.
C'est des
cauchemars. Hein. Ah oui. Mais ça m'arrive encore maintenant. Hein. J'ai 60 ans et ça m'arrive encore maintenant.
40 ans après?
40 ans après. C'est encore dans la cabouche, hein.
Cette nuit, il va en rêver, hein.
C'est sûr qu'il va en rêver cette nuit, hein, d'Algérie. Hein.
Chaque fois qu'il parle de l'Algérie, eh ben, il en rêve la nuit, il est encore choqué, rien à faire.
Au début, j'ai rentré, ma mère, elle me dit, Bernard, tu as levé cette nuit? Ben, j'ai dit oui. Qu'est-ce que t'as fait? Elle a dit, je cherchais mon fusil, je lui ai dit, si je trouve pas mon fusil au pied du lit, hein. Parce qu'en Algérie, on a le fusil au pied du lit avec les cartouches, et puis chargé, hein. Ben oui, hein. On se réveillait, il fallait foncer, hein. À n'importe quelle heure de la nuit. Eh oui. Une fois, on avait fouillé un village complet, et puis on avait donc ramassé les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, puis les enfants d'un autre côté. Alors, nous, on avait l'ordre de fouiller les hommes. Alors, je me souviens, il y avait un monsieur devant moi, avec sa djellaba.
Oui.
Puis, en ouvrant sa djellaba, il me dit, tu connais Colmar, gamin, qui me dit. Tu connais Colmar, qui m'a dit.
Colmar.
Oui. Et ben, j'ai dit oui, juste, je habite pas loin. Et ben, j'y étais, il m'a dit, voilà, il a montré les décorations qu'il avait. Je ne l'ai pas fouillé, la sousse. J'ai dit, allez, vas-y, passe, va. J'étais tellement écœuré que...
C'était un ancien combattant.
Un ancien combattant qui avait venu défendre la France.
Putain.
Eh oui. Et c'était comme ça. Et il y en avait beaucoup comme ça. Hein? Ben oui, tous les pères des jeunes Falagas, ils avaient venu défendre la France, hein. Puis on les retrouvait, nous, là. On les fouillait. On des malpropres. On avait l'ordre, hein.
Ouais.
Eh oui. Ouais.
Ça, c'est vous avec le flingue, là?
Oui. Ben oui, le pétard, hein. Puis là, on est en train de casser la croûte, là.
Eh, franchement, là, là, sur cette photo avec votre pétard, avec votre revolver, vous êtes fiers, quoi.
Oui, un peu, oui. Oui.
Ah ben oui.
Ben oui, hein, c'est sûr, hein. Ben oui, hein.
Avec les armes
ben
et tout.
Oui, hein. Oui. Mais voilà, peut-être c'est celui-là. Ah ben, vraiment, mon cabaye, tiens.
C'est quoi, c'est un cadavre?
Il y en a encore un là-bas. 37, la journée, là, qu'on a eu. C'est interdit de prendre des photos comme ça, hein. Si on se faisait peler, attention.
Mais ça, c'est un copain à vous?
Non, c'est un fal, ça. C'est un falaga, ça.
Ah.
C'est des falagas, ça. Oui. Alors, on les laissait sur place, hein, quand on les tuait. Hein. Deux jours après avoir passé, il n'y en avait plus. Hein. Ils étaient ramassés pour leurs copains ou leur famille, je sais pas. Oui. Hein. Ah, voilà. Et quand mon copain parisien, là, voilà, on montait la gâte.
Avec des manches à balai?
Oui. Il nous avait annoncé la quille, puis on n'y croyait plus. On n'y croyait plus à la quille, parce qu'on était partis pour 18 mois. Puis au bout de 18 mois, on a fait 24 mois.
Ouais.
Ah ben la veille, il nous disait, les gars, hein, la 57 UB, encore un mois. Hein. 25 mois. Hein. Et 25 mois finis, encore un mois, il est 26. Encore un mois, 27. Encore un mois, 28. Alors,
Le 28e mois fini, ah, il dit, ça y est, la 57-8B, sortez des toiles de temps. Allez, avant qu'on nous annonce un mois, vous avez la quille. C'est pas vrai, on part pas, qu'on disait. On voulait plus partir.
Eh là, vous vouliez plus partir.
Mais ça faisait 16 mois qu'on était là-bas, on y pensait. Je sais pas.
Ça, c'est quoi cette enveloppe-là?
Alors là, c'est mon carnet militaire.
Ah, mais vous êtes soigneux, hein? Libéré et renvoyé dans ses foyers. Embarquement à Philippeville, le 1er septembre 1959.
Ouais, je pense, oui.
La guerre était finie.
Ouais. Pour moi, oui, c'était fini, là, hein, 59. Et ça a duré jusque...
62.
62, hein. C'est encore un état, au bout de 40 ans, hein.
Prêt à repartir.
Vous avez tout gardé. Et je suis porte-drapeau aux anciens combattants de la commune, là.
Porte-drapeau, ouais. C'est-à-dire que...
Béret rouge et puis des médailles.
Béret rouge, médaille et drapeau, c'est vous.
Ah oui, c'est moi, oui. C'est moi qui...
Pourquoi vous faites ça?
La Légion Vosgienne, parce que pour montrer qu'on a fait quelque chose dans notre vie.
Pour montrer que vous avez fait quelque chose dans votre vie.
Voilà. Ouais. Là, j'ai ramené les casquettes d'Algérie.
Oh, les casquettes d'Algérie.
Ouais.
Et ça, c'est pas des trous, c'est la sueur, ça. Hein.
C'est la sueur, c'est bouffé par... Ouais.
Par la sueur, hein.
Ouais. C'était les casquettes Bijar. Bijar Boy qui nous appelait. On nous appelait les hommes léopards, là-bas, en Algérie.
C'est vrai, vous étiez les hommes léopards, mais bien sûr. Ouais. Et vous êtes fier de Bijar, vous?
Oui. J'ai tous ces bouquins, là.
Bijar Massu?
Massu aussi, il y en a encore un, là, qui est pas lu, là, encore.
Ah, après, vous lisez ça?
Ouais. Ouais. J'en ai pas fait assez, hein, vous voyez. J'en ai encore pas rentré dans le caboche assez de ça.
Ah oui?
Ouais.
De Gaulle, il a pas beaucoup de crédit, à vos yeux?
Pas tellement.
Franchement.
Non. Je suis pas gaulliste, non.
Ouais. Non. Vous votez quoi pour le FN aujourd'hui? Franchement.
Je sais pas si je vais vous le dire.
Mais pourquoi pas?
Exactement, oui.
Oui. Comment est-ce qu'un homme comme vous peut voter pour le FN? Vous êtes pas, vous dites que vous êtes pas raciste, vous.
Ben, je voudrais bien que la France se redresse un peu parce que je sais pas où on va. Quand on voit tout ce qui se passe, on prend pas de sanctions, on brûle les voitures, en veux-tu, en voilà, et puis y a rien de fait. Il faudra faire quelque chose, hein. Autrement, c'est la fin, là. Hein. Mm-hmm. C'est terminé. Hein.
Depuis combien de temps vous êtes au FN?
Oh non, j'en fais pas partie. Hein.
Vous votez?
Je vote, c'est tout. Oui. Ouais. Oui. Ça fait peut-être 2-3 ans, pas plus. Hein.
Et est-ce que c'est lié avec l'Algérie, justement? Parce que ce que vous me racontez, quand même, c'est que... Attendez. Vous êtes un petit gars du coin. Par hasard, vous allez dans les paras. Ouais. Après, vous êtes fidèle aux paras.
Oui.
Parce que vous êtes un type fidèle.
Oui.
Bon, d'accord. Et après, vous êtes fidèle jusqu'au bout. Vous êtes toujours fidèle aujourd'hui.
Ben oui, oui. Voilà. Exactement, oui. Oui. Puis même, je continuerai.
Oui, c'est ça.
Hein?
Mais tout ça, ça vient du fait que par hasard, vous êtes allé dans les paras.
Oui, c'est ça, exactement, oui. J'aurais pas été dans les paras, je crois. C'est pas que je sais comme ça.
Ben non.
Non. Ça m'a motivé, ça m'a endurci, ça m'a tout fait. Ça m'a formé, j'ai dit. Quand j'ai rentré d'Algérie, maintenant, je suis un homme, j'ai dit. Maintenant, c'est vrai que j'en étais un. Hein? C'est vrai. J'avais plus peur de rien. Ça m'aurait pas marqué, je n'aurais pas tous ces bouquins. Hein.
Ouais.
Il y en a des autres encore des bouquins. Hein.
Ouais, c'est votre vie, quoi. C'est
oui,
vie.
Oui, c'était. Oui, c'est exactement, oui. Eh oui. Voilà. Là, la vie.
La vie. La vie.
Je regrette pas d'avoir été dans les paras quand même. Hein.
Ouais.
Non. Mais t'es content.
Hein. De tout ça, vous regrettez rien, finalement.
Non, ben oui, comme la chanson. Hein.
Comme la chanson.
Oui, je ne regrette rien.
Dites-moi quand même, parce que, une dernière question, en parlant tout à l'heure avec Dieudonné.
Oui.
Hein?
Oui.
Raymond.
Raymond Dieudonné, Dieudonné. Oui.
Lui, il nous dit carrément, moi j'ai torturé.
Qu'il a dit?
Ouais.
Ah, lui, il le dit. Ah oui, il se cache pas de le dire.
Qu'il a torturé. Au contraire, il le dit carrément. Il dit, moi j'ai torturé, j'ai fait la GIGN, j'ai mis de l'eau, des gars qu'on torture avec de l'eau.
15 litres d'eau dans les tripes, pendu par les pierres, coup de casque lourd, calvante. Non, c'est ça qu'il vous a dit.
Ouais.
Ah, oui. Ça se peut, hein, mais, je sais pas.
C'est comme toi.
Tel que je le connais.
C'est comme toi avec Madame Copeau, elle a réussi à te faire parler, comme le monsieur a réussi à te faire parler, sinon.
Ouais.
Ah, oui.
Moi, ça m'a un peu étonné.
Moi, j'ai vu tourner la gêne. Je vous le dis maintenant, mais faut plus l'enregistrer.
Vous avez vu tourner la GIGN?
Oui.
Vous l'avez fait tourner?
Je sais pas, peut-être, oui.
Ouais.
Ouais. Ça fait chier, ça. Ah, ça fait mal.
Ça fait mal.
C'est mal.
De l'avoir fait.
Oui. Ouais. Hein?
Ah, ben...
Un gars qui est blessé, vous mettez le fil dans la blessure et puis un autre sur la langue. Puis vous la tournez, hein. Il saute, hein. Alors, je ne dois pas vous le dire.
C'est ça qui empêche de dormir
ouais,
maintenant.
Oui, c'est ça, exactement. Oui.
C'est ça qu'on vous a fait faire.
Oui. Ouais.
Pourquoi vous ne le dites pas plus, ça? Parce que c'est putain de paras qu'on voit. Qu'on
c'est
voit
putain de paras.
Non, mais.
Ce qu'ils en ont les tripes, hein. C'est mais dur oui. Leur faire sortir ce qu'ils en ont les tripes, les paras.
C'est ça que vous avez.
Oui, c'est ça.
C'est ça que vous avez tous sur la mémoire. C'est pas sur la conscience,
non.
Mais c'est dans
c'est,
la mémoire.
C'est là où c'est.
Et c'est ça qu'on ne veut pas écouter
oui.
Et que vous n'arrivez pas à raconter parce oui. Que vous savez que vous n'allez pas être écouté, que si vous êtes écouté, vous allez tout de suite juger.
Oui. Oui.
Vous avez peur d'être jugé là-dessus.
Oui. Oui. Elle a fini maintenant, je ne dis plus rien.
Non, mais.
Eh oui.
Vous dites tout à l'heure, c'est pas bon de le faire parler de ça parce qu'il va s'en souvenir cette nuit, il va rêver cette nuit, il va avoir des cauchemars. Cette nuit. C'est ces images-là qui vont venir.
Voilà, nuit. C'est ça qui va revenir. Oui. C'est ça, oui.
Les trucs moches.
Oui, j'ai dit, il fallait pas le faire. J'ai dit.
Oui.
On était commandé, on était obligé de le faire. On était obligé. On était désappelé, il fallait le faire.
Oui.
Oui. Il voulait voir ce qu'on avait dans les tripes, comme les engagés. Il nous faisait faire des fois ça, des choses comme ça qu'on n'avait pas envie de faire. Ça, je vous ai dit, le premier mois en Algérie, j'ai pleuré. J'ai vu ce qui se passait. J'ai pleuré. Comme un gosse. Et combien de fois j'ai déjà dit ça, hein?
Et pour montrer.
Quand vous avez gardé des prisonniers toute une nuit, ils étaient à poil. Une menotte au poignet et une là.
Voilà. Ou à la cheville. À quatre pattes, comme ça, voilà. Les voir évoluer comme
toute
ça, à quatre pattes.
Au mois de janvier. Hein? Le lendemain matin, un coup de ça dans les tripes à chacun pour les réveiller. Ceux-là, ils n'ont pas vu le soleil, hein, c'est ce que je vous le dis. Passeport, hein.
Ah.
C'est dur, ça, hein. C'est vrai, hein. Quand des pauvres gars qui sont attachés comme ça, non. L'image est toujours dehors. Elle est toujours là, hein.
Oui.
Ah, oui. C'était la vie à l'époque.
Okay, get ready. My name is Kenny.
Chris.
Sherman.
Michael.
Gary.
Nate.
Jessica. Candy.
Christina.
Mindy.
Kimberly.
Ricardo.
Okay. Simple changement de nom, c'est vrai que l'Algérie hier, l'Irak aujourd'hui, les images se ressemblent étrangement et terriblement. La torture en Irak ravive la mémoire de la torture en Algérie, un tabou qui a eu la peau dure. Et à ce propos, les 12 intellectuels qui avaient invité le 31 octobre 2000 l'État français à reconnaître et à condamner officiellement les exactions commises pendant la guerre d'Algérie, on renouvelle leur appel. C'est Germaine Tillon, c'est Henri Alex, c'est Simone de Bollardière, c'est Josette Audin, Pierre Vidal-Naquet, Gisèle Halimi notamment. Car il faut le souligner, la torture n'a pas été officiellement reconnue par la France. Voilà, merci à tous. Je rappelle à nouveau le livre de Claire Copeau. Il y a deux livres de Claire Copeau. L'un qui s'intitule, alors un sur les images à travers le viseur, images d'appeler en Algérie 55-62. C'est aux éditions Adèle C.A. C'était édité en 2003. Et puis un autre sur les appelés en Algérie. Technique aujourd'hui, Nadège Antonini et Olivier Leroux, Koye Nguyen, Pascal Pascariello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de la Basse J'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Il est 18h sur France Inter. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Et je vous laisse pour le journal avec Laetitia Gaillet. Salut.